Morning Edition from NPR News.
Let's eat his son in the house.
Hey, I'm ready to go to Paris.
Pero se get to the radio.
France Inter. Le 18-20.
Et ce soir, c'est avec Pedro Almodovar que nous sommes avec son nouveau film Madres Paralelas. Nous allons parler féminisme, maternité, parler de la grande histoire espagnole aussi, celle qui est enfouie et que l'Espagne est en train de nous regarder en face doucement, celle des fosses communes du fascisme, celle de l'identité espagnole. Il y a de tout cela dans ce film qui a valu à Penélope Cruz une coupe Volpi à Venise. C'est dans une minute. Le bruit du monde est au Bénin ce soir qui vient de retrouver, vous le savez, 26 œuvres rendues par la France. Mais ce qu'on va raconter ce soir, c'est l'histoire d'un objet manquant, une couronne disparue depuis presque un siècle. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Logeni a trouvé la ville la plus polluée du Pakistan. Une injustice réparée pour les Tanzaniennes et des mini-robots assistantes maternelles en Corée du Sud. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, comme chaque jeudi, avec Angélique Bouin qui viendra raconter ce que Svetlana Tikhanovskaya a essayé de raconter sur la Biélorussie au Parlement européen. Et puis 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four qui pense que la mort tragique des migrants de Calais ne changera rien de rien. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Pedro Almodovar.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Pedro Almodovar, je vous ai trouvé plus posé, presque pudique dans ce film, beaucoup plus que dans vos précédents en fait. Est-ce que c'est parce que l'histoire dans l'histoire, celle de la mémoire enfouie de l'Espagne, nécessitait d'être un peu plus posé?
C'est
vrai qu'avec le temps, je suis devenue peut-être plus pudique. En tout cas, c'est plutôt que je ne ressens plus le besoin que je ressentais dans les années 80-90 de faire des scènes de sexe explicites. Donc mes scènes de sexe dans mes films sont moins explicites que par le passé, mais elles sont suffisamment claires pour qu'on les comprenne.
Et
c'est vrai que depuis le film Julieta, qui constitue pour moi un point d'inflexion en fait dans ma carrière, j'ai eu le sentiment que du point de vue narratif, j'avais besoin de davantage d'austérité, davantage de retenue, tant dans la mise en scène que dans l'interprétation des personnages. Et ce n'était pas le cas avant, mais au bout de 20 films, j'avais le sentiment que je commençais à raconter des histoires plus intimes et que donc il fallait davantage de retenue. Donc, je ne sais pas si c'est de la pudeur, mais c'est plutôt de la retenue.
Et en même temps, on vous a rarement vu, alors tout est politique bien sûr, mais on vous a rarement vu aussi directement politique que dans ce film-là.
C'est vrai, c'est sans doute le film le plus explicitement politique de tous ceux que j'ai fait, même si tous mes films finalement sont politiques puisqu'ils débordent de liberté dans toutes ses facettes. Et ça, c'est une posture politique en soi. Mais c'est vrai que dans ce film-ci, je parle directement des problèmes politiques et sociaux que nous connaissons en Espagne. Et
le thème, le problème des fosses communes,
alors c'est vrai que le problème des fosses communes, même si ça fait 85 ans qu'il existe, c'est un problème qui est encore un problème d'actualité dans la société espagnole d'aujourd'hui. Et moi, je crois que la société espagnole a une véritable dette vis-à-vis des victimes qui ont lutté pour la démocratie en 1936 et aussi vis-à-vis de leurs proches aujourd'hui. Et tant que nous n'aurons pas remboursé cette dette, tant que nous n'aurons pas payé cette dette, nous ne pourrons pas fermer ce chapitre de notre histoire, le chapitre de la guerre civile, et c'est cela dont je voulais parler spécifiquement dans ce film.
Et dans ce film, vous mêlez donc deux histoires, celle de deux femmes qui accouchent en même temps, qui n'en sont pas du tout au même point dans leur désir de maternité. Il y a donc cette histoire, et puis il y a la grande histoire, celle des fosses communes, puisque l'une des protagonistes veut qu'on retrouve la fosse où est son grand-père, tué par les phalangistes en 1935. Vous ouvrez et vous fermez le film autour des fosses communes, mais vous mêlez très rarement les deux histoires. Pourquoi avez-vous fait ce choix ?
C'est vrai que c'est un problème dont je voulais parler depuis longtemps, en fait. Mais je n'avais pas trouvé le bon scénario pour le faire jusque-là. Alors, dans ce film, je parle de ces mères qui vivent la maternité de façon parallèle, ces mères célibataires et qui ont des destins parallèles. Mais dès le départ, je voulais aussi parler du problème des fosses communes. Ça simplement, je voulais en parler à travers l'histoire personnelle de l'un des personnages. Et donc, c'est à travers la situation privée, personnelle du personnage de Janis que j'aborde cet autre problème avec lequel il résonne, le problème politique, public de l'Espagne, qui concerne en fait tout notre pays. Et ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est que de par son travail, elle travaille pour révéler la vérité historique de notre pays. Et c'est complètement en contradiction avec sa vie personnelle, sa vie privée, où là, la vérité n'a pas sa place, elle ment, elle cache quelque chose dans sa vie privée. Et je trouvais que c'était intéressant, en fait, de parler des deux choses en parallèle à travers ce personnage de Janis qui travaille donc sur ces fosses communes. Et puis, dans le film, donc, il y a finalement... les autres mères, il y a les deux types de mères espagnoles, en fait, et il y a celle qui représente, disons, les milieux sociaux de gauche en Espagne, et puis il y a la jeune, qui, bien sûr, est trop jeune pour avoir connu ce qui s'est passé en Espagne pendant la guerre civile, et pour avoir une idée précise de ce qui s'est passé dans son pays, mais qui a reçu une éducation extrêmement conservatrice, de droite, et il y a cette scène dans la cuisine où Janis dit à l'autre « mais tu ne sais pas dans quel pays tu vis ». Et pour moi, ça représente cette division qui a toujours existé dans notre pays.
Et c'est vrai que c'est aussi ce personnage de Janis qui est Penélope Cruz et son dilemme et son secret qui nous renvoie aussi au dilemme et au secret de l'Espagne. Au fond, elle ne dit rien au début, en tout cas. Alors, on ne va pas révéler ce qui se passe dans la fin du film, mais son silence, c'est aussi le silence de l'Espagne pendant si longtemps sur les fosses communes, non ?
Sí. Ese, el silencio de Janis es un, o sea, es una evocación a ese enorme silencio.
Oui, tout à fait. Le silence de Janis, en fait, évoque cet immense silence que je caractériserais de pathologique de l'Espagne. Parce que pendant tout le temps de la dictature, en fait, dans les familles, personne ne parlait de ce qui s'était passé pendant la guerre civile, ni les pères, ni les mères, ni même les grands-parents. Personne n'en parlait jamais de peur qu'il arrive quelque chose à leurs proches. Et même depuis l'arrivée de la démocratie, en fait, on n'en avait jamais parlé. Et il faut en arriver à la génération maintenant des arrière-petits-enfants. Ce sont eux qui recherchent leurs ancêtres, ce sont eux qui demandent l'ouverture de ces fosses communes. Et donc il a fallu attendre l'arrivée de cette génération, de ceux qui n'ont pas connu cette époque, pour qu'ils n'aient plus peur de parler et pour qu'ils n'aient plus peur de réclamer l'ouverture des fosses communes. Et dans tous les autres pays où il y avait eu des dictatures, que ce soit l'Italie, l'Argentine, le Chili, tout ça s'est fait bien avant. Mais lorsqu'il y a eu justement des rapporteurs de l'ONU qui sont venus pour étudier cette période de l'Espagne franquiste, ils ont été véritablement frappés de ce problème, en fait, de voir que les gens n'en avaient pas parlé et n'avaient rien réclamé jusque-là.
Et les mêmes relateurs de l'ONU.
Les rapporteurs de l'ONU ont dit quelque chose avec laquelle je suis tout à fait d'accord, c'est que l'Espagne a une très mauvaise relation avec son passé, que l'Espagne n'est pas mûre dans sa relation avec son passé. Je suis complètement d'accord avec ça.
Et c'est pour ça qu'il est tellement question d'identité dans votre film. On en parle tout le temps. Lorsqu'il est question des deux bébés, lorsqu'il est question des fosses espagnoles, il y a beaucoup d'ADN. Et au fond, la question derrière, c'est quoi être espagnol ? Vous l'avez cette réponse aujourd'hui, vous, Pedro Almodóvar ?
C'est une question difficile et je ne voudrais pas me tromper dans la réponse.
On a la même en France et on n'a pas la réponse non plus, je vous rassure.
Es un sentimiento.
Je crois que être espagnol, en fait, c'est un sentiment. C'est se sentir espagnol comme se sentir madrilène. Mais il n'y a pas besoin d'être né à Madrid pour se sentir madrilène. Pour moi, c'est une évidence. Être espagnol. Maintenant, si on parle des deux Espagnes, je crois que c'est vrai qu'il y a différentes façons de se sentir espagnol, mais surtout, en particulier actuellement, moi je ne crois pas qu'on soit plus espagnol parce qu'on défend les symboles nationaux d'une façon un peu fanatique. Moi je crois que être espagnol, ça n'a pas besoin de tous ces symboles en fait. Et il y a à l'heure actuelle cette espèce de tendance ultra-patriotique de gens qui, je crois, défendent de façon excessive ce que j'appellerais l'espagnolité. Et moi, pour moi, les gens peuvent venir en Espagne, ils peuvent chercher du travail en Espagne, ils peuvent s'installer en Espagne sans devoir démontrer leur espagnolité. Or, c'est vrai que les tendances d'extrême droite dans notre pays pensent que ces gens-là devraient remplir un certain nombre de conditions pour être espagnol. Moi, je crois que ce n'est pas nécessaire.
Comme
je le disais, c'est difficile en fait de dire en quoi ça consiste d'être espagnol. Je crois que tout simplement, c'est quelque chose que l'on ressent. Et moi, la première fois que j'ai senti que j'étais espagnol, c'est la première fois que j'ai voyagé hors des frontières de l'Espagne, en étant à Paris ou à New York, plus à New York qu'à Paris. Là, je me suis senti espagnol. Et c'est ce sentiment en fait d'appartenance.
Et pourtant, j'ai envie de vous dire que tout n'est pas perdu, puisque vos deux personnages, vos deux femmes qui représentent effectivement deux Espagnes l'une et l'autre, entre elles, malgré tout ce qui leur arrive, il n'y a jamais de colère. Ou très peu. Le ton monte très très peu. Preuve que finalement, à la fin, la réconciliation, elle est possible, y compris dans ces deux Espagnols-là. Qu'est-ce que vous en dites ?
La película habla de esa reconciliación.
Le film parle de cette réconciliation comme un souhait, un désir actuel, contemporain.
Y como una posibilidad, por supuesto. Pero,
j'en parle comme d'une possibilité aussi. Malheureusement, à l'heure actuelle, cette réconciliation n'est pas totalement réelle. Il y a certes une grande partie des Espagnols qui sont favorables à cette réconciliation. Mais en même temps, pour la première fois en Espagne, depuis 5 ans, nous avons un parti d'extrême droite et ces gens d'extrême droite, eux, sont loin de la réconciliation. Au contraire, tout ce qu'ils disent, tous leurs discours, toutes leurs idéologies appartiennent au passé, à un passé franquiste. Et non seulement ils n'ont pas condamné le franquisme, mais ils s'en réclament. Et donc, je pense que le moment est opportun pour parler de cette réconciliation, une réconciliation qui n'est pas encore totale, mais qui est une possibilité, qui est vraiment possible et que beaucoup d'Espagnols souhaitent.
Et en même temps, vous voyez, très symboliquement, pendant toute la durée du film, et je pense que je ne suis pas la seule, je me suis demandé, à la place du terrible dilemme de Penélope Cruz, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait, moi ? Qu'est-ce que j'aurais été capable de faire ? Et cette question-là traverse le film autant qu'elle traverse l'histoire espagnole.
Si, porque...
Oui, effectivement, c'est le fil conducteur de tout le film, parce que c'est une question morale. Ce que le personnage de Janice fait de son secret, c'est totalement compréhensible. Maintenant, sur le plan moral, ça peut quand même être remis en question. Moi, je crois que j'aurais fait le même choix qu'elle, mais c'est vrai que c'est le fil, en fait, c'est le fil conducteur du film, et aussi sur la question des ancêtres, des descendants de ces ancêtres. C'est cette espèce de fil, de ligne qui unit les générations entre elles depuis 85 ans.
Dans un autre registre, et encore que, j'ai pas pu m'empêcher de voir que pendant la fameuse scène dans la cuisine, Penélope Cruz a un t-shirt avec marqué « We should all be féministes ». Nous devrions tous être féministes. Et il est joli ce clin d'œil. Et il nous ramène aussi à tout ce qu'est votre filmographie, Pedro Almodovar.
Si, de todos modos, había una razón.
Oui, vous avez raison. Cela dit, il y avait une autre raison pour laquelle le personnage porte ce t-shirt, c'est parce qu'il était très à la mode en 2018, qui est le moment où a lieu l'action du film. Mais c'est vrai que c'est aussi une déclaration de principe à la fois du personnage et de moi-même. D'ailleurs, depuis mon premier film, en fait, j'ai écrit de grands personnages féminins, et quelle que soit leur profession, tous ces personnages, en fait, avaient une grande autonomie morale, qu'elles soient femmes au foyer, qu'elles soient écrivaines, qu'elles soient religieuses. Donc, pour moi, ça a toujours été clair. Et puis, dans ce film, en fait, j'ai voulu placer différents types de mères, sans porter de jugement sur elles. Il y a cette mère qui n'a pas d'instinct maternel et c'est très dur en fait de le reconnaître et même pour elle-même en fait. Et moi je pense que ce sont des situations qui peuvent exister. On a le droit de ne pas avoir l'instinct maternel, de ne pas ressentir cela, mais de ne pas le ressentir en même temps, c'est extrêmement douloureux. Me semble-t-il, et je trouvais que c'était intéressant aussi d'avoir ce personnage de mère qui est complètement aux antipodes de l'autre personnage, celui de Yanis. En outre, ce personnage de mère qui n'a pas l'instinct maternel se déclare apolitique, et quand on dit apolitique chez nous, ça veut dire conservateur. Mais cela dit, moi je respecte les trois types de mères.
Vous faites référence à 2018 et à ce fameux t-shirt. Alors 2018, c'est le démarrage de MeToo qui a existé en Espagne comme ailleurs. Moi, je me demandais si, pour vous, qui êtes probablement le cinéaste le plus féministe de cette génération-là, si vous avez le sentiment aujourd'hui que les femmes ont pas d'autres combats à mener et même à remener des combats que vous avez vous-même menés à une époque. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment-là parfois? Est-ce qu'elles ont plus ou moins de chances que vous en avez eu finalement?
Oui, c'est tout à fait vrai. Il y a des valeurs en Espagne que nous avions réussi à obtenir grâce aux combats que nous avions menés dans les années 80, dans les années 90, et qui aujourd'hui me semblent être en péril. Par exemple, je pense à l'avortement qui est complètement légal dans notre pays, et pourtant aujourd'hui, il y a des manifestations devant les cliniques qui pratiquent les avortements. On voit des gens attroupés, genouillés, en train de prier. Ça aurait été impensable il y a 20 ans. Et donc, sur certains aspects, effectivement, je pense que la situation est pire qu'au cours des 30 dernières années en matière de droit. Je pense aussi, par exemple, aux agressions homophobes qui se multiplient aujourd'hui en Espagne, plus que jamais. Et c'est surprenant parce que ça aurait été impensable dans les années 80 ou 90, et aujourd'hui ça arrive beaucoup trop souvent. Mais je crois que c'est une tendance générale dans le monde entier, en fait. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un recul par rapport aux libertés et aux droits que nous avions réussi à acquérir grâce à des combats parfois féroces il y a quelques années.
Je crois que dans les années 80,
et je crois que dans les années 80, jamais nous n'aurions imaginé qu'en 2021, on en serait là où on en est, même dans nos pires cauchemars, on ne l'aurait pas imaginé.
Et est-ce que ça inspire le cinéaste que vous êtes, ou est-ce que ça rend triste l'homme que vous êtes? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre époque, Pedro Almodovar, aujourd'hui?
Alors c'est vrai que vieillir, ce n'est jamais agréable, et moi je crois que je ne ferai pas un bon vieillard. Je veux dire que je ressens vraiment le passage du temps. Maintenant, moi j'ai grandi en parallèle avec la société espagnole, et je suis née en tant que réalisateur au seul moment où c'était possible pour moi de faire du cinéma, c'est-à-dire au moment de l'avènement de la démocratie. Alors, vieillir, ça fait qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont plus possibles, mais c'est vrai aussi pour ma ville, par exemple. Madrid, c'était la ville de la liberté par excellence. Et je crois que là aussi, cette liberté est entamée, qu'il y a un recul des libertés. D'ailleurs, il y a des gens parfois qui me posent la question quand ils ont vu un de mes vieux films à la télévision, et ils me disent: mais Pedro, par exemple, le film Dans les ténèbres ou La loi du désir, ou tous les films donc que j'ai fait dans les années 80, je pense en effet que ce serait plus difficile aujourd'hui de faire ce film-là qu'en 1983, qui est l'année où je l'ai tourné. Et donc, non, je ne me sens pas très à l'aise dans cette situation.
Et surtout, que difficile hacerlos, porque yo lo haría. Yo, si fuera joven ahora mismo, haría esas mismas
películas. Cela dit, moi, si j'étais jeune aujourd'hui, je ferais ces films-là. Mais ce serait beaucoup plus difficile de trouver des canaux de distribution, de montrer ces films, et donc je n'aurais pas la carrière que j'ai eue.
Mais ça veut dire que vous en ferez d'autres quand même. Dites-moi qu'il y en aura d'autres. Vous en avez encore quelques-uns derrière votre tête au moment où on se parle, là, non?
Si, si, non, por supuesto. No, no, quiero me pregunto, de hecho, cuántas películas me quedan.
Bien sûr.
Porque eso es un tema que también nunca había pensado.
Je me demande, de fait, maintenant, combien de films il me reste encore devant moi. C'était une question que je ne me posais pas auparavant, mais je suppose que c'est le passage du temps. Je crois que, à l'heure actuelle, je ne serais pas capable de me recycler dans une autre profession. Et donc, je suis condamnée à continuer à faire des films. Cela dit, je l'assume et je l'assume avec gratitude parce que finalement, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est quasiment la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui.
Pour notre plus grand plaisir, merci beaucoup. Merci mille fois, Pedro Almodovar. Le film s'appelle Madres Paralelas. Il sort ce mercredi 1er décembre. Il a valu à Penélope Cruz la Coupe Volpi, celle de la meilleure actrice au Festival de Venise. Et la traduction était assurée par Isabelle Segala, qu'on remercie aussi vivement.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès, sur France Inter.
La suite, ce soir, nous serons au Bénin. Vous savez que 26 œuvres ont été jusque-là restituées. Il en manque une, plusieurs, mais une au moins. C'est une histoire de couronne qu'on va vous raconter dans un instant. Et pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Legénie.
Nous irons à Lahore, au Pakistan, deuxième ville la plus polluée au monde, avec une patrouille qui fait la chasse aux fraudeurs.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est avec vous, Angélique Boin. Bonsoir, Angélique.
Bonsoir, bonsoir à tous. La principale opposante au régime de Loukachenko était hier devant les eurodéputés. La Biélorusse redoute que la crise à la frontière polonaise ne fasse oublier ce qui se passe dans son pays.
Le monde d'après, Jean-Marc Four. Bonsoir à vous, Jean-Marc.
Bonsoir à tous. L'émotion est réelle, on le voit après la tragédie de Calais, mais je vous fiche mon billet que ça ne va rien changer au dossier des migrants.
Allez, à tout de suite. Tout le monde autour de la planète n'est pas fini. Il passe par le Royaume-Uni. Pete Doherty, The Fantasy Life of Poetry and Crime. C'est sur France Inter. Bells they chime in time to a vicious low whine of a chainsaw's grind in the summertime. There's a coppery taste, a gun in your face. High planes drift, slice shape shift across the maritime. Estuary, there's a clue to find in the fantasy life of poetry and crime. Hold Normandy and Saint Maritime in the fantasy life of poetry and crime. du monde. Ce soir, est au Bénin, à Porto Novo, la capitale. Il est question d'une couronne. Vous savez que la France a rendu au début du mois 26 œuvres d'art sacré au Bénin, qui avaient été le plus souvent dérobées lors de la colonisation, mais il devra y en avoir d'autres. Là-dessus, le président Patrick Talon a bien prévenu la France. Et ce qui manque, notamment, allez savoir si on la retrouvera un jour, c'est donc une couronne, la couronne de Toffa Ier, qui fut roi de Porto Novo au 19e siècle. Il y a bien une photo, il l'a sur la tête. Depuis, cette couronne, pas de nouvelles, perdue corps et bien. C'est cette quête, c'est cette enquête même que nous raconte François-Xavier Frelon.
Devant le palais royal de Porto Novo, une sculpture quasi grandeur nature d'un éléphant trône en hommage à Toffa Ier, l'ancêtre de la dynastie, animal qui symbolise la loyauté. Ce jour-là, assis sur son trône, Sa Majesté le roi Toffa IX sourit, peut-être parce qu'un Français vient le voir en audience privée pour lui parler des œuvres sacrées disparues depuis longtemps. À Porto Novo, on évoque surtout un trône dérobé. On en sait moins sur la couronne de Toffa Ier. On se souvient surtout du traité de protectorat signé avec la France en 1863 pour mettre Porto Novo à l'abri des razzias du royaume d'Abomey juste à côté et de l'appétit des colons anglais déjà présents au Nigeria voisin.
Sa Majesté Toffa a pris le trône en 1874. Son père, je veux dire, Dessoji, a signé le premier traité avec les Français en 1863. C'est lui qui, en dépit de tout, a ouvert son pays au monde entier. Et en réclamant que ses enfants, que ses sujets soient éduqués. Donc, il a accepté le brassage des civilisations. Mais la France l'a trahi après.
En réalité, la France utilisera les loyaux services du roi Toffa pour mettre à genoux le roi d'Abomey et fonder la colonie du Dahomey, ancêtre du Bénin actuel. Car c'est là que vient la trahison. Les Français, censés protéger le royaume de Toffa, vont petit à petit s'accaparer son territoire. Et c'est à peu près à ce moment-là, à l'aune du XXe siècle, que cette couronne flanquée d'un lion, que l'on retrouve sur une photo de Toffa Ier, disparaît. Marie-Cécile Zinsou, directrice de la Fondation Zinsou, à l'origine de l'enquête.
L'enquête est relancée au moment où je retrouve dans un article du Figaro de l'exposition universelle de 1900 une description de la fameuse couronne au lion d'argent qui est dans une vitrine et que le journaliste du Figaro dépeint longuement. Où est cette couronne aujourd'hui? C'est la vraie question. On sait donc qu'elle est sur la tête du roi Toffa et qu'après, elle a probablement été collectée par un homme qui s'appelle Fonsagrive et qui travaillait dans l'administration coloniale à Porto Novo. C'est probablement lui qui l'a envoyée à l'exposition universelle. Elle est donc dans cette vitrine. Et la question est comment sort-elle de cette vitrine et où va-t-elle? Et à ce moment-là, on perd sa trace. Elle n'est pas dans un inventaire, dans aucun inventaire d'aucun musée français. Et donc, on ne sait pas du tout où disparaît cette couronne. Et alors là, toutes les hypothèses sont possibles, mais c'est très difficile d'en trouver une qui soit particulièrement valable.
Dans son bureau, le très respecté Calixte Biya, éminent historien et conservateur du musée d'Ouida, chargé du retour des œuvres avec le musée du Quai Branly, a sa petite idée.
Vous connaissez mieux que moi les collectionneurs privés. Ce ne sont pas des gens qui s'exposent au grand jour. Ce sera un travail assez difficile, assez délicat, un travail de fourmi. Ce qui est sûr, vous ne pouvez pas détenir indéfiniment par devers vous quelque chose qui ne vous appartient pas, ou quelque chose que vous aviez eu de façon frauduleuse. Vous finirez vous-même ou des gens proches de vous finiront par le dire, on finira par aller vers vous.
En attendant, au palais royal de Porto Novo, le roi Toffa IX est en tous les cas déçu de voir que les 26 œuvres rendues par la France appartenaient toutes au royaume rival d'Abomey. Mais attention, au pays du Vaudou, chaque objet sacré a une valeur spirituelle qui peut se retourner contre ses voleurs. Malgré ses fétiches et le pouvoir magique dont il est doté, le roi Toffa IX en appelle néanmoins à la raison, à la loyauté de l'éléphant, qui scella cette amitié franco-béninoise pour récupérer sa couronne Et pour cela, il émet un dernier vœu.
Vu tous ces renseignements réunis, moi, Sa Majesté, Docteur Degbeze Agnotemé Toufa IX, aimerait rencontrer le président de la France.
Mais dites-moi, rendez-vous est pris et le reportage est signé François-Xavier Frelan. Merci beaucoup. Vraiment, le mystère de la couronne de Porto Novo, c'est aussi à lire chez nos amis de Jeune Afrique. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale que Sébastien Logeni a trouvé sous les radars. Les rues de Lahore, Sébastien, deuxième ville du Pakistan, deuxième ville la plus polluée du monde.
On parle régulièrement de la pollution, Fabienne, dans les rues de Delhi, la capitale indienne, pendant l'hiver, mais on connaît moins la situation à Lahore, qui pourtant est catastrophique. Lahore, qui est même devenue temporairement hier la ville la plus polluée au monde, devant Delhi, avec un niveau de particules fines 30 fois supérieur aux normes de l'OMS. Les raisons sont bien connues, le carburant des voitures, un diesel bas de gamme, les émissions industrielles des usines, située en pleine ville, et la fumée issue de la culture sur brûlis dans les champs autour de Lahore. Un cocktail explosif qu'on appelle le smog, de la fumée plus du fog, du brouillard. Le tout qui devient irrespirable en hiver car les faibles températures et l'absence de vent plaquent la pollution au sol. Un fléau dont les autorités pakistanaises ont mis du temps à prendre conscience, mais petit à petit, quelques initiatives locales se mettent en place comme cette brigade municipale anti-pollution. Il s'agit d'une campagne spéciale anti-smog, nous dit le responsable de cette brigade. Une trentaine d'agents parcourent depuis quelques jours la ville en camionnette et traquent les fumées suspectes. Là, ils viennent par exemple de tomber sur une usine qui travaillait sans épurateur ni contrôle des émissions. Usine fermée, mise sous cadenas. Une goutte d'eau toutefois dans un océan de fumée toxique. À ce jour, le Pakistan n'a toujours aucune véritable politique pour protéger les 11 millions d'habitants de Lahore, dont l'espérance de vie est de 6 ans inférieure aux autres Pakistanais.
Direction la Tanzanie, Sébastien, qui vient de mettre fin à une injustice visant les jeunes étudiantes enceintes.
Ce pays de l'Afrique de l'Est était dirigé d'une main de fer depuis 2015 par le président John Magufuli, le bulldozer, comme il était surnommé, est mort en mars dernier. Mais durant son mandat, nombreuses ont été les atteintes aux libertés individuelles et parmi elles, les atteintes aux droits des jeunes étudiantes. Écoutez cette archive de 2017. On entend ici le président tanzanien, je donne de l'argent, dit-il, pour qu'une étudiante étudie gratuitement et puis elle tombe enceinte, accouche et après ça retourne à l'école. Eh bien non, ça, pas sous mon mandat. Les conséquences sont immédiates à l'époque de cette déclaration. Des responsables d'école réalisent des tests de grossesse afin d'expulser des étudiantes enceintes. C'est ce que raconte un rapport de l'ONG Human Rights Watch. Impossible ensuite pour elles de retourner en cours, de terminer leurs études. Une décision qui provoque un tollé dans le pays mais aussi au-delà. La Banque mondiale à l'époque décide de geler un prêt de 300 millions de dollars. 4 ans après, John Magufuli est donc mort. La Tanzanie a changé de président. C'est d'ailleurs une présidente qui a décidé hier d'abroger la loi de son prédécesseur. Les écolières enceintes seront de nouveau autorisées à poursuivre leurs études après l'accouchement. La ministre de l'Éducation a publié une circulaire ajoutant « Il n'y a plus de temps à perdre ».
Et on termine en Corée du Sud où la passion pour les robots est désormais partagée par les directeurs d'école.
La ville de Séoul vient de lancer un projet pilote qui consiste à utiliser de petits robots dans les écoles maternelles. Il s'agit d'en faire des aides pédagogiques lors de certains exercices. Le petit robot s'appelle Alpha Mini, 25 cm de haut, capable de danser, de réciter des histoires, de faire du karaoké, même d'enseigner quelques mouvements de kung-fu. Les enfants l'adorent évidemment et les enseignants y voient une façon de sensibiliser la nouvelle génération aux nouvelles technologies. À l'avenir, dit ce responsable de la ville de Séoul, il sera important de savoir comment gérer l'intelligence artificielle. Alors nous pensons que le fait d'avoir une telle expérience pour les enfants dès la maternelle aura un effet durable tout au long de leur jeunesse et en tant qu'adulte. Voilà, les robots sont actuellement déployés dans 300 écoles de Séoul. L'expérience commence dès l'âge de 3 ans. On n'arrête pas le progrès, comme dirait ma grand-mère.
Voilà, écoutez, formidable. Le même pour faire le 18-20 très prochainement dans vos salles. Sébastien Logeni, merci beaucoup. Come away with me, nous dit Nora Jones. Ça va pas être possible. J'ai une émission à finir.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away. come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try to come away with me, and we'll kiss on a mountain top. Come away with me, and I'll never stop loving you.
Come Away With Me sur France Inter. Let's Come Away, pas très loin, tiens. Allons jusqu'à Bruxelles, où nous attend Angélique Bois.
France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
The European Union, général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Angélique, vous étiez hier soir à Strasbourg, où la principale opposante au régime biélorusse de Loukachenko, Svetlana Tikhanovskaya, est venue redire à quel point l'Europe doit rester ferme à l'égard du régime biélorusse.
Oui, c'était un moment vraiment émouvant, Fabienne, alors que les Européens, on le sait, sont focalisés sur ce qui se passe à la frontière polonaise, leur frontière extérieure, avec l'arrivée des migrants, qu'ils commencent même à avoir des échanges diplomatiques directs avec Alexandre Loukachenko, dont ils ne reconnaissent pourtant pas la légitimité à la tête de la Biélorussie, et bien sa principale opposante est donc venue raconter ce qui se joue en ce moment et qui est tragique à l'intérieur de son pays. Ces centaines d'opposants emprisonnés, torturés parfois, assassinés, dit-elle. Ils sont plus nombreux que vous dans cet hémicycle, a-t-elle lancé aux eurodéputés. Ils sont 750. Et elle les a aussi mis en garde sur ce que le dirigeant Loukachenko, le dernier dictateur en Europe, est capable, selon elle, de mettre en œuvre dans l'avenir pour continuer à faire pression sur les Européens.
À supposer que ces mauvais traitements infligés aux migrants prenaient fin, disons, d'une manière ou d'une autre. Pensez-vous vraiment que les menaces du régime au-delà de ses frontières s'arrêteront là? Je pense à l'augmentation de la contrebande de drogue et d'autres produits, aux provocations militaires et même à un possible désastre nucléaire dans des centrales proches de la frontière. Rien de cela ne sort de mon imagination. Ce sont des menaces que le régime lui-même n'a pas hésité à proférer. On a besoin d'une Europe plus proactive pour lutter contre l'autocratie.
Une Europe qui doit donc, Angélique, renforcer encore ses sanctions, c'est ce qu'elle dit.
Oui, car les tyrans sont toujours encouragés par la passivité, a-t-elle ajouté dans ce discours. Elle réclame des sanctions plus ciblées et puis la saisie de la justice internationale. Car tout cela, dit-elle, hein, cela fonctionne, cela fait effet.
Let me assure you.
Je voudrais vous assurer que les sanctions fonctionnent bel et bien. Maintenir une politique cohérente de sanctions est essentiel parce que les sanctions divisent les élites, font voler en éclats les mécanismes de corruption et divisent l'entourage même de Loukachenko. Personne ne souhaite partager la responsabilité des crimes commis par le régime dans cet entourage. Alors soyons fermes, il ne faut pas laisser les lobbies entraver votre action.
Voilà, c'est intéressant, Fabienne, parce qu'on s'interroge parfois, nous journalistes européens en particulier, à l'issue des conseils des ministres des Affaires étrangères, quand on nous annonce par exemple qu'on va allonger encore la liste des personnes sanctionnées par l'UE. Si cela a vraiment de l'effet, oui, nous dit donc la principale opposante biélorusse. Même analyse de la part de l'eurodéputée Rosatom. Elle est polonaise, elle vit à 200 kilomètres de la frontière biélorusse. Au Parlement européen, elle suit très près ce dossier, hein, c'est là que je l'ai rencontrée. Elle le suit avec son cœur, dit-elle, car ce sont ses proches voisins. Eh bien, elle aussi, elle me l'a dit hier, elle redoute que le fait de ne parler en ce moment que des migrants poussés vers l'Europe n'occulte les crimes de Loukachenko.
Il couvre avec ça la situation des prisonniers politiques, par exemple. Et nous remarquons que nous parlons tous de la frontière en ce moment, et il y a des centaines et des milliers de gens dans les prisons, dans les conditions affreuses, vraiment complètement inimaginables, et il faut utiliser vraiment les sanctions. Ces dictateurs à l'est de l'Europe, ils ont très peur aussi des sanctions personnelles, quand ils ne peuvent pas venir, quand ils ne peuvent pas profiter de l'argent qu'ils ont dans les banques, dans l'Europe occidentale. Ils ont peur de ça.
Voilà, à ce stade, sachez que 166 Biélorusses sont visés par ces sanctions. Gel des avoirs, interdiction de venir en Europe. Il y a Loukachenko et son entourage, évidemment, mais aussi des ministres et conseillers, des juges ou encore des patrons d'entreprises proches du pouvoir.
Angélique Bouin, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est tous les jeudis dans Un jour dans le monde. Merci Angélique.
Fabienne Synthès. Le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, l'émotion est forte des deux côtés de la Manche après le drame qui a vu la mort de 27 migrants au large de Calais. 27 personnes qui cherchaient à rejoindre le Royaume-Uni. La question est de savoir si cette émotion va déclencher des décisions politiques réelles à Paris, à Londres, à Bruxelles où nous étions, qui soient susceptibles de mettre un terme à ce type de tragédie. Et vous êtes très sceptique, c'est votre monde d'après.
Comment ça, il y a des migrants qui cherchent à traverser la Manche? Comment ça, il y en a qui meurent lors de la traversée? Mais il faut faire quelque chose, on nous cache tout, on nous dit rien. L'émotion exprimée dans certains propos publics tenus après ce naufrage est troublante, parce qu'il faut quand même une sacrée dose de mauvaise foi pour être surpris par ce drame. On découvre la lune, ou plutôt on fait semblant. C'est juste que cette fois-ci, le drame est plus visible, parce que le nombre de morts est plus élevé. La réalité, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Des morts de migrants dans la Manche, il y en a régulièrement, 2, 3, 4, 300 officiellement recensés depuis 20 ans. Et leur nombre augmente, parce que le nombre de traversées ne cesse de croître, 3 fois plus que l'an dernier, 10 fois plus qu'il y a 3 ans. Ce ne sont pas des chiffres mystérieux, ils sont publics, documentés. Depuis le début de cette année, entre 30 000 et 50 000 personnes ont tenté leur chance pour traverser la Manche. Une majorité a réussi à gagner l'Angleterre et à chaque fois, ou presque, c'est à bord, vous savez, de ces bateaux pneumatiques instables. Plus de 70 personnes ont à nouveau tenté leur chance aujourd'hui, alors même qu'elles étaient informées du drame d'hier. Alors cette fois, oui, il y a beaucoup de morts d'un coup, mais nous sommes seulement face à ce que l'Italie, la Grèce, l'Espagne vivent depuis près de 10 ans. Près de 30 000 morts en Méditerranée en 7 ans, et là encore, on ne parle que des morts recensées. Tout cela se déroule sous nos yeux, c'est parfaitement connu, c'est juste qu'on s'en fout.
Alors quand même, cette fois, Jean-Marc, il y a une vraie émotion, comme vous dites, et les discours, ils sont forts, non?
Bon, on parle tout de même de 27 personnes humaines, comme vous et moi, dont 3 enfants et une femme enceinte, essentiellement des Kurdes, soit dit en passant, hein, ceux que nous avons présentés comme nos meilleurs alliés dans les conflits du Proche et du Moyen-Orient. Donc oui, des discours, il y en a. Pour nombre d'entre eux, ils relèvent quand même du règlement de compte mesquin. La presse populaire britannique attaque évidemment la France, qui ne veut pas des migrants et ferme les yeux sur leur tentative de traverser. La France, de son côté, réalise que depuis les accords du Touquet en 2003, Londres lui a refilé le bébé de la sécurisation de ses frontières, un comble. Mais bon, passons sur les échanges pitoyables de noms d'oiseaux. Pour l'essentiel, oui, les discours sont faits de compassion et surtout de promesses d'action. La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière, proclame Emmanuel Macron. Paris organise une réunion d'urgence des ministres européens voisins, ce sera dimanche à Calais. Londres réclame un effort international coordonné. Combien de fois Rome ou Athènes ont dit la même chose ces dernières années? Cette fois, c'est juste que c'est chez nous, devant notre nez. Mais il ne faut pas s'y tromper, comme le drame d'hier est trop visible, il faut faire des annonces. Des actes, c'est autre chose.
Donc, il va rien se passer.
Au bout du compte, c'est quand même le plus probable. On fera le bilan dans un an et j'espère m'être trompé d'ici là. Si, il va peut-être se passer quelque chose sur le volet répression, le seul à l'agenda de l'Europe, construire des murs comme en Pologne, renforcer le dispositif Frontex, arrêter, démanteler les réseaux de passeurs. Ces trafiquants sont des milliers. La France en a déjà arrêté des centaines. De vraies mafias. Le dispositif pourrait être musclé avec des patrouilles communes franco-britanniques. Et entendons-nous bien, hein, pas de naïveté, ce volet répressif est nécessaire. Le problème, c'est qu'il n'est pas suffisant. Les flux migratoires ne s'arrêteront pas sous prétexte qu'on arrête des passeurs. La France prend la présidence tournante de l'Europe dans un mois. Tous les dirigeants européens le savent. Il est impératif de redéfinir un pacte migratoire, pas seulement sur l'asile, mais aussi sur les indispensables besoins de main-d'œuvre des économies européennes, la migration légale. Et oui, il faut répartir les migrants entre pays européens. Seulement voilà, l'Union européenne est divisée sur le sujet, et puis surtout la question de l'immigration est devenue totalement irrationnelle politiquement, donc impossible à aborder en pleine campagne électorale. Donc le statu quo est le plus probable, et il déclenchera mécaniquement d'autres tragédies de Calais. Mais si on est cynique, le souci, répétons-le, ce n'est pas que ces drames aient lieu, le souci c'est quand ils deviennent trop visibles. Comment ça, il y a des migrants qui cherchent à traverser la Manche?
Jean-Marc Four et le monde d'après, merci beaucoup. Jean-Marc, on se retrouve lundi. Bien sûr, on reste ensemble, nous jusqu'à 20h, dans un instant c'est le téléphone sonne. Juste avant, le journal d'Hélène Filly. À tout de suite.